Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Beaucoup de rires et quelques larmes. Les candidats bacheliers ont pris connaissance ce matin de leurs résultats au bac 2025. Des renforts pour la DSCGR, 40 pompiers de la Sécurité Civile Nationale arrivent demain. Annonce faite ce matin sur RRB par l'officier communication de la DSCGR qui était notre invité à 7h30. L'Australie, premier pays à interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans, elle est entrée en vigueur ce matin. En métropole, une victoire politique à 13 voix près pour le Premier ministre. Les députés ont adopté le projet de loi de finances pour la Sécurité sociale. Et puis en football, victoire de Marseille et de Monaco en Ligue des Champions ce matin. Les deux clubs se relancent dans la course pour les barrages de la compétition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, ce drame de la route qui a fait 2 morts à Wailou. Il a eu lieu hier lundi soir. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons encore indéterminées aux abords du lycée Doneva. Le conducteur et le passager avant, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, sont décédés sur place. Une troisième personne âgée de 20 ans également qui était à l'arrière du véhicule a été grièvement blessée. L'homme a été transporté au Medipôle et son pronostic vital est engagé. Cet accident porte à 33 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Une grande émotion pour des centaines de jeunes un peu partout sur le territoire ce mercredi. Le rendez-vous était donné à 10h devant les établissements pour l'affichage des résultats de la première session du baccalauréat, Michael Juneski.
Oui, comme le veut la tradition, de nombreux candidats avaient décidé d'aller devant leurs établissements pour l'affichage des résultats du bac, même si ces résultats sont aussi disponibles sur Internet. Beaucoup ne manqueraient pour rien au monde cette séance de cris, d'éclats de rire, de larmes aussi, et pour la majorité, le sentiment qu'une page de leur vie se tourne avec la fin de leur scolarité dans le cycle secondaire. Illustration au lycée La Pérouse.
J'ai eu l'émotion très bien.
Moi aussi.
Moi je suis bien choquée. Je ne s'y attendais pas.
Excellent.
Je sais pas. On réalise pas.
Ça allait, hein, j'ai le bac. Bah, ça fait plaisir, ça, on sent léger.
Avant les résultats, vous vous sentiez comment ?
Un peu stressé, mais je savais que je l'avais, le bac. Donc ça, ouais.
Vous étiez confiant ?
Oui, j'étais confiant.
Ça va. Bah, je passe le second groupe, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Au moins, je sais que j'ai mon bac quand même si je passe le second groupe.
On l'a mention bien. Bah, ça fait, c'est bien, je sais que c'est à cause de l'aspect physique que j'ai eu pas mention très bien. Mais c'est pas grave, j'ai mon bac au moins.
Alors, vous l'avez ?
Ah oui, avec mention.
Oui, aussi.
Ah bah franchement, en vrai, je le savais. J'ai charbonné toute l'année, donc je le mérite, je pense.
Fierté.
Je viens de voir les résultats. Et franchement, je suis super content parce que j'ai eu mention très bien. C'était un peu mon plus grand objectif. J'ai bossé dur toute l'année. Il y a mes parents, il y a mon père, il y a ma mère. Et ils sont un peu partout. Je vais les dire là en rentrant. Ils seront super contents et voilà, ça sera super.
Franchement, c'était très stressant, mais je suis contente d'avoir eu les résultats. Et puis maintenant, on est soulagé d'un poids. Donc c'est une liberté pour nous, voilà.
Et à l'heure de découvrir les résultats, les membres des familles avaient parfois également fait le déplacement.
Je l'ai tellement vu travailler que je voulais être là pour la voir exulter. Voilà, mention très bien. Je suis une maman fière. C'est quand même elle.
Elle l'a eu, parfait, avec la mention bien.
Vous avez décidé de venir en famille pour suivre ce que faisait la fille, la grande sœur également ?
Eh oui, oh oui, obligée. Je suis trop fière d'elle.
C'est votre petite ou grande sœur ?
Grande sœur.
Ok. Donc vous, c'est pour bientôt ?
Moi, je suis en troisième. Enfin, je vais passer en troisième.
Ça fait quoi de venir découvrir avec elle ce qui vous attend peut-être plus tard ?
Ça fait peur.
Grande émotion donc également pour les équipes pédagogiques qui ont passé plusieurs années avec ces jeunes. Le proviseur du lycée La Pérouse, Gilles Luquewé.
Je crois qu'après une année scolaire comme celle-ci, c'est le soulagement pour beaucoup et on entend quelques cris là de joie et on a plutôt de bons résultats, donc on est en tout cas très content. Toujours beaucoup d'émotions parce qu'on se rend compte que les jeunes ont travaillé, qu'ils sont là, ils sont dans l'attente de résultats et puis finalement pour ceux qui méritent, eh bien ils arrivent au bout. Je veux dire, le baccalauréat c'est une porte qui s'ouvre, donc de nouvelles perspectives. Vous voyez la joie qui se lit sur les visages quand même, ça. Et chaque année, ben, on partage aussi cette joie des familles, hein, de nos jeunes, d'arriver au bout avec le baccalauréat en poche, en tout cas.
Et certains n'ont toutefois, vous le savez, pas tout à fait terminé. Les rattrapages vont débuter pour ceux qui ne sont pas encore bacheliers. Les épreuves vont se poursuivre dans les prochains jours jusqu'au 16 décembre.
Et puis Michael, le vice-rectorat vient de dévoiler les premiers chiffres qui concernent ses résultats du bac.
Oui, à l'issue de la première session d'épreuve, 3091 candidats ont passé l'examen du baccalauréat, réparti entre la voie générale à hauteur de 36%, la voie technologique pour 24% et la voie professionnelle pour 40%. L'Académie de la Nouvelle-Calédonie compte 2181 nouveaux bacheliers aujourd'hui, soit un taux d'admission avant les épreuves de rattrapage de 70,6%, supérieur de 1,7 point par rapport à la session 2023. Le nombre de candidats convoqués au second groupe d'épreuves a baissé, 309 candidats contre 278 en 2024 et 540 en 2023. De même, la proportion de candidats à journée plafonne à 10% comme en 2024 et baisse si l'on compare aux 16% de 2023. Par ailleurs, près de 1240 bacheliers ont obtenu une mention, soit presque 57% d'entre eux, un chiffre en hausse par rapport à la session 2023. Alors dans le détail, pour le baccalauréat général, le taux d'admis à l'issue du premier groupe d'épreuves s'élève à 81,6%, en baisse de 3,3 points par rapport à la session 2023. Parmi les candidats présents, 89 sont convoqués au second groupe d'épreuves, soit 8%. Et le nombre de mentions très bien est en baisse, lui, par rapport aux sessions précédentes, avec 117 distinctions, dont 24 accompagnées des félicitations du jury. Pour le baccalauréat technologique, le taux d'admis à l'issue du premier groupe d'épreuves est de 64,9%, supérieur de 9 points par rapport à la session 2023. Dans la voie professionnelle, 64,1% des candidats sont admis, soit un taux supérieur de 3,1 points par rapport à 2023. Le nombre de candidats convoqués à l'épreuve de contrôle a baissé, passant de 133 en 2023 à 95 cette année. Alors, de manière générale, le nombre de candidats présents a diminué de 8% par rapport à la session 2023, moins 279 candidats, une baisse qui concerne la voie générale et professionnelle. Par ailleurs, la proportion de filles parmi les candidats est en légère augmentation, passant de 52 à 54%. Concernant d'autres diplômes, pour finir, les résultats au certificat d'aptitude professionnelle, le fameux CAP. Sur les 651 candidats scolaires présents à cet examen cette année, 443 ont été admis, un taux de réussite à 68%, en hausse de 1,4 points par rapport à la session 2024. Enfin, encore un diplôme, le brevet de technicien supérieur, le fameux BTS. 751 candidats se sont présentés à l'examen cette année, diminution de 3,1% par rapport à 2023. 471 admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, ce qui correspond à un taux d'admis de 62,7%, quasiment à l'identique que l'année 2023.
Le feu de l'île des Pins est maîtrisé. Les pompiers restent toutefois vigilants pour éviter toute reprise de cet incendie dont l'origine est un écobuage mal maîtrisé en début de semaine. En ce début de semaine dernière, le bilan environnemental est très important pour cet incendie d'une rare ampleur. Le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication de la DSCGR, était ce matin notre invité.
C'est le deuxième feu le plus dimensionnant depuis 20 ans. Le dernier feu, c'était la montagne des Sources en décembre 2005 avec 4700 hectares, avec des difficultés un peu similaires à celles de l'île des Pins, des difficultés d'accès, du vent et de la sécheresse. Donc là, on est sur un chiffre entre 2000 et 3000, parce qu'on est en train de tester un nouveau dispositif Copernicus pour la surface par satellite. Donc on sera en mesure de donner des vraies surfaces fin de journée. Mais c'est pas le plus important, ça reste un feu d'ampleur qui a duré quand même 8 jours et qui est maîtrisé mais qui n'est pas éteint.
Les pompiers ont donc été mis à rude épreuve pendant cette semaine, mais ils pourront bénéficier du soutien de pompiers de la Sécurité civile nationale, des renforts qui arrivent demain.
Nos équipes sont très éprouvées et fatiguées. C'est pour ça que demain matin arrive à 6h30 40 pompiers de la Sécurité civile nationale. Le président du gouvernement fait une demande auprès du haut-commissaire pour venir justement aider les pompiers locaux qui sont quand même très éreintés après les feux de l'île des Pins à travailler 20 heures par jour. C'est assez habituel, c'est les FORMIS, c'est les unités d'intervention du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité civile. Ils viennent régulièrement, ils sont venus en janvier l'année dernière sur un feu qu'on avait eu dans le sud de la Nouvelle-Calédonie où pareil, nos équipes et nos moyens étaient à bout de souffle, donc ça nous a donné un peu d'oxygène. C'est des unités qui sont spécialisées dans les risques environnementaux et technologiques et c'est la force de frappe française. Ils vont un peu partout dans le monde, que ce soit pour les feux de forêt, les séismes. Les équipes qui viennent sont vraiment spécialisées dans le feu de forêt avec des techniques qui s'appellent le DIH, d'intervention héliportée. Donc c'est des gens qui sont aguerris à ce genre de mission. Ouais.
Et la DSCGR, par la voix du capitaine Rossignol, appelle les Calédoniens à la plus grande vigilance, mais aussi au civisme en ce qui concerne les feux de forêt.
9 départs sur 10, c'est d'origine humaine. Donc il faut que les gens soient conscients. Justement, en ce moment, on a quand même une végétation très sèche, du vent soutenu. On a tous les facteurs pour que ça développe un feu assez rapidement. Il faut absolument être conscient de tout ça et préserver l'environnement. Donc pas de chez mégots cigarettes et pas allumer de barbecue, comme c'était passé en janvier l'année dernière dans le sud d'Acadie. Des gens qui ont fait un barbecue mal contrôlé, c'est parti. Sur l'île des Pins, on est plutôt sur un écobuage mal contrôlé, voilà. Donc on ne se rend pas compte en fin de compte, parce que c'est des us et coutumes. Tiens, on va faire ci, on fait un barbecue, c'est naturel. Sauf que faire attention que ce barbecue il reste dans un endroit bien confiné avec des cailloux autour. Et puis quand on est en vigilance orange, on ne met pas le feu, c'est interdit. Et puis surtout, si vous voyez un départ de feu, ne pas hésiter aussi à appeler. Parce qu'on dit, oh ben non, la personne devant moi a déjà appelé, ou les gens ont dû déjà appeler. Non, je pense qu'il faut mieux avoir 10 coups de téléphone au 18 que pas en avoir du tout.
Le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication à la DSCGR, a aussi évoqué ce matin la préparation de la saison cyclonique et l'organisation du centre opérationnel de la DSCGR. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site rrb.nc. L'entrée en vigueur en Australie d'une interdiction que de nombreux pays du monde vont scruter. Depuis ce matin, en effet, l'accès aux réseaux sociaux est interdit pour les jeunes de moins de 16 ans. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Au nombre initial de 10, sont surtout frappés par ces interdictions certains réseaux sociaux tels que Facebook, l'ancien Twitter, Instagram, TikTok, Reddit et YouTube. « Le monde entier nous regarde », a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese pour expliquer la décision prise par son gouvernement d'imposer une telle mesure. « Il s'agit d'un enjeu et d'un problème planétaire », a-t-il poursuivi. « Les nouvelles technologies peuvent accomplir des merveilles, mais nous devons veiller à ce que les humains restent maîtres de leur destin », en particulier nos jeunes Australiens, a-t-il conclu. Certains de ces jeunes Australiens prévoient déjà d'utiliser des plateformes alternatives, les identifiant de leurs parents et des réseaux cachés, tels que CoverStar et RedNote, pour contourner l'interdiction gouvernementale. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et toujours dans l'actualité, dans la région, ce cadeau de Noël avant l'heure pour l'initiative Kiwa, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande a consolidé son engagement en versant à ce programme 5 millions de dollars néo-zélandais, c'est-à-dire 300 millions de francs. L'annonce a été faite en début de semaine à l'occasion de la 11e réunion du comité d'orientation stratégique qui s'est tenue à Nouméa. Rappelons que cette initiative Kiwa est un programme régional créé en 2020 qui permet de financer des actions de protection et de restauration de la biodiversité. Il est 11h43, la première pause dans ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, paroi de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
J'ai oublié l'apéro, on n'a rien à servir.
Relax, j'ai commandé la plaque pizza à la Maison du Pain.
Une plaque? Mais c'est quoi ça? 24 parts? Mais tu penses à tout.
Je sais, et en bonus, j'ai même pris les desserts. Tartelettes framboises, cheesecake et tarte tatin, madame.
La plaque pizza sur commande, la Maison du Pain, complexe Le 4, 186 rue Jacques-Yécaoué. Faites vos courses autrement.
La fête de la lumière fait son grand retour cette année.
La ville de Nouméa vous invite au lancement ce samedi 13 décembre à 19h30 au kiosque à musique sur la place des Cocotiers.
Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons ensemble la féerie de Noël.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Après l'avis favorable sur le projet de loi organisant la consultation des Calédoniens émis lundi par le Congrès, les groupes politiques ont comme convenu rédigé leur opinion pour expliquer leur vote. Les groupes loyalistes et rassemblements justifient leur vote pour. Le groupe UCFLNKS explique pourquoi il a voté contre. Le groupe Uni et les élus Calédoniens Ensemble et Éveil Océanien détaillent les raisons pour lesquelles ils se sont abstenus. Des opinions qui vont être transmises au haut-commissaire et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la présidente du Congrès. En marge de cet avis qui traduit des divisions au sein du Congrès, il est envisagé une démarche commune des groupes politiques pour demander la constitution d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat qui reprenne l'initiative et permette peut-être une reprise des discussions pour rechercher un accord consensuel. On parle aussi désormais de solliciter directement le Premier ministre ou le Président de la République pour qu'il tente de débloquer la situation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Êtes-vous favorable à l'organisation de la consultation citoyenne sur l'accord de Bougival le 15 mars 2026, c'est-à-dire le même jour que le premier tour des élections municipales? Si vous y êtes favorable à cette date, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, elle a fait l'unanimité. Les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent en effet que Juliette Collet, qui a fait un superbe parcours en étant élue première dauphine, aurait mérité d'être élue Miss France 2026. Une journée pour comprendre, prévenir et agir. La maladie rénale chronique ou MRC est au cœur de l'événement organisé ce mercredi à la clinique Windomania, Léo Fichou.
Oui, une journée de dépistage de la maladie rénale. Une journée importante quand on sait qu'environ 700 personnes souffrent d'une insuffisance rénale chronique terminale en Nouvelle-Calédonie. Depuis 8h et jusqu'à 16h, les équipes médicales sont présentes dans le hall principal de la clinique. Vous pouvez bénéficier de conseils, réaliser une série de tests gratuits. Un événement organisé par la clinique en partenariat avec l'unité de néphrologie de Nouvelle-Calédonie et le réseau de l'insuffisance rénale. Delphine Butita est infirmière coordinatrice du RESIR.
C'est du dépistage et de l'information sur la maladie rénale. Donc ça passe par les facteurs de risque et c'est mis en place sous forme de consultation infirmière. Donc vous avez la possibilité de rencontrer l'infirmière qui va vous poser une liste de questions sur les facteurs de risque, qui va prendre la glycémie, le sucre dans le sang, qui va prendre une tension et qui ira plus loin dans les examens si besoin et qui vous orientera éventuellement vers le médecin. Et tout ça avec plein de conseils pour garder ses reins en bonne santé. Ensuite, on a deux stands. Donc, on a un stand qui parle de la greffe, du don d'organes sur le territoire. Et ensuite, on a le stand des diététiciennes. Donc, on a les deux diététiciennes spécialisées dans le domaine de la néphrologie qui là vont donner des conseils, toujours pour garder les reins en bonne santé, parce que la base, c'est l'alimentation.
Et depuis l'ouverture des portes à 8h, de nombreuses personnes viennent à la rencontre des professionnels de santé. C'est le cas d'Ariane. Elle a profité d'une visite à la clinique pour se faire dépister.
J'étais passée pour emmener ma maman qui faisait un examen. Je suis tombée sur les infirmières qui faisaient des dépistages. Et du coup, j'en ai profité pour tout vérifier. Et puis apparemment, tout va bien. Je trouve que c'est très bien parce qu'on ne pense pas toujours aller voir notre médecin. Parfois, on a des petits pépins, on traîne un peu. Et puis là, c'était l'occasion de le faire sans trop d'efforts. J'ai discuté avec une diététicienne qui m'a donné beaucoup de conseils par rapport à mon âge. Et puis j'en ai profité pour faire des tests, prendre ma tension, vérifier mon taux de protéines et puis mon diabète. Et on est très bien accueillis et avec le sourire et tout s'est bien passé.
Une journée de dépistage de la maladie rénale chronique, gratuite et ouverte à tous. Les infirmières restent présentes dans le hall principal de la clinique Windomania jusqu'à 16h.
Soline Galiana de Dumbéa a brillé. À tout juste 9 ans et demi, cette élève de CM1 de l'école catholique de Dumbéa-sur-Mer a remporté le premier prix du concours d'éco Outre-mer. C'est un concours organisé par le ministère de la Culture et la remise des prix a eu lieu en présence de la ministre Rachida Dati. Un concours de dessin sur le thème l'Outre-mer, une mosaïque de culture. Soline Galiana a donc présenté son œuvre au message fédérateur « Lié par la mer, uni par la culture ». On l'écoute.
J'étais surprise déjà et j'étais contente. Mon dessin représente une pirogue qui navigue sur l'eau. On a relié chaque culture à chaque outre-mer. Et mon slogan, c'est « Lié par la mer, uni par la culture ». Il fallait faire une mosaïque et un slogan. J'ai fait chaque outre-mer sur les côtés. J'ai fait le drapeau bleu, blanc, rouge en soleil. Comme les Outre-mer, elles sont reliées par la France. Et du coup, le drapeau bleu, blanc, rouge, il rayonne sur toutes les Outre-mer. J'ai dessiné une pirogue parce que en Nouvelle-Calédonie, surtout à l'île des Pins, on utilise beaucoup les pirogues. J'ai dessiné un bonhomme qui chante des instruments de musique parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on fait beaucoup de musique. J'ai dessiné une raie, un poisson et une tortue. Parce qu'on en voit souvent en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi dessiné une mosaïque sur ma voile et aussi sur le bonhomme.
Chacun des 7 jeunes lauréats qui sont originaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de Saint-Martin, de la Réunion, de Polynésie française et donc de Nouvelle-Calédonie a présenté aux membres du grand jury le dessin qu'il a réalisé sur la thématique de ce concours. Écoutez la réaction de Charline Galliana, c'est la maman de la jeune lauréate.
Quand on a entendu le résultat, en fait, un peu stupée, on était stupéfaites toutes les deux. Sachant qu'on y allait très simplement, voilà, on n'a pas cherché, on avait déjà gagné. Enfin, Soline avait vraiment déjà l'impression d'avoir gagné en Nouvelle-Calédonie, donc pour l'instant, elle prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc, un peu hébétée, mais par contre, moi, super fière, évidemment, de ce qu'elle a fait, de son attitude, de son authenticité. Donc, voilà, c'est que de la fierté et puis une grande chance aussi de vivre ce moment-là. Il faut savoir que notre déplacement est cofinancé par la mairie d'Imbéa, que je remercie vraiment parce que c'est une super expérience qui nous est offerte. Et en plus, on a par la suite là, toute une semaine de visites organisées dans Paris. Donc, ça va être des souvenirs vraiment mémorables.
Effectivement, les 7 lauréats qui ont donc remporté le premier prix vont bénéficier d'un voyage d'une semaine à Paris. Ils vont pouvoir visiter la Tour Eiffel, le bateau-bus, l'Atelier des Lumières, la Cité de la Musique, le Musée du Quai Branly, mais également le Sénat et l'Assemblée nationale pour les sensibiliser sur la question de la citoyenneté.
Au cœur de Noël, avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
On vous parle tous les jours, évidemment, de cette opération au cœur de Noël. Il faut dire que vous êtes fidèle à ce rendez-vous de générosité et de partage, puisque chaque jour, vous amenez des cadeaux à la radio que nous réceptionnons et qui, grâce à nos partenaires, la Croix-Rouge, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent-de-Paul, seront distribués aux familles en difficulté qui pourront offrir des cadeaux à leurs enfants pour cette fête de Noël qui approche, hein, rappelez-vous. Et cette opération au cœur de Noël se termine le 20 décembre, donc on vous attend à la radio. Vous pouvez passer tous les jours de 7h à 19h ou déposer également vos cadeaux si vous le souhaitez au magasin Petit Dôme, route de Lanzvata. Merci pour votre générosité et on continue de vous attendre nombreux. 11h52, une nouvelle pause et dans un instant c'est l'actualité en métropole et dans le monde. Nous reviendrons évidemment sur l'adoption du projet de loi de finances de la sécurité sociale à 13 voix près.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Appréciez un buffet à volonté avec boissons, transat et parasol pour une journée de détente parmi notre équipe de maridés au Phare Amédée. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Dino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta. Désormais, découvrez nos petites pizzas et nos géantes à partager. Midi et soir, 7 jours sur 7. Sur place ou en livraison avec Midit, Dino Pizza, téléphone 31 91 92.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Et c'est incontestablement une victoire pour le Premier ministre. Les députés ont adopté le projet de loi de finances de la sécurité sociale, d'une courte majorité de 13 voix certes, puisqu'il y a eu 247 voix pour et 234 contre. Sébastien Lecornu a bataillé jusqu'au dernier moment pour convaincre les députés et son travail auprès des socialistes notamment aura payé, puisque les députés du groupe ont voté pour, comme l'a expliqué leur chef de file Boris Vallaud.
Pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais eu la fascination du spectacle de la chute, et nous ne ferons jamais de la vie des gens les victimes de la politique du pire. Nous voterons ce budget de la sécurité sociale, non parce qu'il est le nôtre, mais parce qu'il est le fruit du compromis républicain, qu'il en va de l'intérêt des Français, de leurs services publics et de la France.
À l'issue de ce vote positif, donc, Sébastien Lecornu a salué une majorité de responsabilité. Mais politiquement, le prix payé pour trouver cette improbable majorité est particulièrement élevé. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Sébastien Lecornu a choisi une stratégie simple, lâcher tout ce qui pouvait l'être pour sauver le texte. Des compromis en série avec les socialistes, comme le renoncement au 49-3, et une hausse de dernière minute des dépenses d'assurance maladie pour obtenir l'abstention des écologistes. Une méthode pragmatique, parfois désordonnée mais très efficace. Discret depuis le début des débats, le Premier ministre a enchaîné les réunions et les discussions dans les couloirs, loin des caméras, et il a obtenu ce qu'il cherchait, placer chaque député face à ses responsabilités, obligeant chacun à clarifier sa position devant ses électeurs, comme au regard des enjeux. Résultat, le PLFSS franchit l'obstacle et l'exécutif évite une nouvelle crise. Le texte doit encore retourner au Sénat, mais le gouvernement pourra cette fois donner le dernier mot à l'Assemblée. Le Premier ministre peut souffler avant le vote du budget de l'État dans les prochaines semaines. Reste le prix politique. Sébastien Lecornu a rangé la réforme des retraites au placard, pourtant emblème du macronisme. Une victoire tactique laissant le président avec un bilan réduit à peau de chagrin.
L'actualité en métropole, c'est aussi cette vaste opération de police sur plusieurs points de deal à Marseille. Elle a mobilisé 1500 agents et abouti entre autres à 79 interpellations. Marseille où se rendra Emmanuel Macron le 16 décembre prochain. Auparavant, le chef de l'État présidera une réunion jeudi à l'Élysée consacrée à la lutte contre le narcotrafic, fléau qui touche désormais tout le territoire national. À Cannes, un jeune homme de 20 ans a été tué par balle dans un appartement il y a quelques jours. Et il s'agit d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Le quartier cannois de la Boca est pourtant un quartier résidentiel, mais ses habitants ne sont pas surpris pour autant par le drame qui s'y est joué.
Il y a sûrement trop d'armes, trop de drogue, trop de jeunes qui ne travaillent pas, trop.
On ne peut pas le nier, ça. Il y a des armes de tous les côtés. Enfin, mais ici, je n'ai jamais vu de problème.
Ça commence à craindre un peu, voilà. Puis ben, ça arrive en bas de chez nous, ça peut arriver dans un petit village, ça peut arriver n'importe où.
Moi, ce que je dénonce, c'est le manque de moyens. À force de raboter les budgets de la fonction publique, on a moins de policiers. Et tout ça, ben, c'est les gouvernements successifs qui ont permis ça.
Un des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, et Volodymyr Zelensky envisage de transmettre une version amendée du plan de paix américain à son pays après une série de réunions avec les pays européens. Donald Trump le presse de donner son feu vert à un cessez-le-feu. Et le président américain met aussi la pression sur son homologue ukrainien. Il estime en effet qu'il serait temps que l'Ukraine élise un nouveau président.
Je pense qu'il est temps. Je pense que c'est un moment important pour organiser une élection. Les Ukrainiens utilisent la guerre pour ne pas organiser d'élection. Mais je pense que le peuple ukrainien devrait avoir ce choix. Et peut-être que Zelensky gagnerait. Je ne sais pas qui gagnerait. Mais ils n'ont pas eu d'élection depuis longtemps. Ils parlent de démocratie. Mais on arrive à un point où ce n'en est plus une.
Et les élections présidentielles en Ukraine auraient dû avoir lieu en mars 2024. Mais la loi martiale en vigueur depuis le début de la guerre avec la Russie empêche la tenue de ces élections. Des dispositions qui peuvent changer, assure Volodymyr Zelensky, qui indique qu'il se dit prêt pour de nouvelles élections. 11h57, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
À la Quincaillerie calédonienne, Noël rime avec belles affaires. Dremel, Karcher, coffret d'outillage, sélection Inco, 20 volts, nos promos de Noël vous attendent. Des idées cadeaux pour un travail précis, durable et inspirant. Quincaillerie calédonienne, 13 rue Ampère à Ducos ou sur Facebook.
Mercredi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Pizza & Pasta au 24 30 70 et retrouvez les suggestions spéciales Noël sur la page Facebook Pizza & Pasta.
Chaque mardi, à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer avec du football et d'abord la suite de la phase de poule de la Ligue des Champions. Jouait ce matin, Lionel, les premiers matchs de la sixième journée. Deux clubs français étaient engagés.
Oui, et les choses se sont finalement bien passées pour Marseille et Monaco qui étaient sortis ce matin. Les Marseillais effectuaient un déplacement qui, sur le papier, était plutôt favorable sur la pelouse des Belges de l'Union Saint-Gilloise. Oui, mais voilà, les Phocéens ont souffert avant de finalement l'emporter. Score final 3-2. Résultat qui permet aux Marseillais de se relancer dans la course à la qualification. Club français engagé dans la compétition ce matin, l'AS Monaco, qui recevait au stade Louis II les Turcs de Galatasaray. Match compliqué pour les Monégasques qui ont été dominés dans le jeu, mais qui eux aussi ont fini par l'emporter. Score final 1-0. Les autres résultats de cette journée avec la victoire de l'Olympiakos Le Pirée 1-0 sur la pelouse du Kerat Almaty. Le Bayern de Munich s'est imposé 3-1 sur le Sporting Portugal. Victoire de l'Atalanta Bergame 2-1 sur les Anglais de Chelsea. Le FC Barcelone a battu les Allemands de l'Eintracht Francfort 2-1. Liverpool est allé l'emporter 1-0 sur la pelouse de l'Inter de Milan. L'Atlético Madrid s'est imposé 3-2 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Enfin, Tottenham s'est imposé 3-0 sur le Slavia Prague. Demain, c'est le Paris Saint-Germain qui sera engagé dans la compétition. Les champions d'Europe en titre seront en déplacement sur la pelouse des Espagnols de l'Athletic Bilbao. Et puis également un mot de Ligue des Champions dames. Ce matin, lors de la 5e journée de la phase de poule, les joueuses du Paris Saint-Germain n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face aux Belges de Louvain. Avec un seul point marqué en 5 matchs disputés, les Parisiennes sont d'ores et déjà éliminées de la compétition.
Le football, toujours à 6 mois maintenant du coup d'envoi de la Coupe du Monde, qui connaît une première polémique. Elle concerne le Pride Match. C'est cette rencontre prévue à Seattle et dédiée aux droits de la communauté LGBT. Mais voilà, ce match des fiertés va opposer deux pays dans lesquels la répression des homosexuels est implacable. Il s'agit de l'Iran et de l'Égypte. Charles Bouchin pour Europe 1.
Ce match des fiertés est une initiative portée par la ville de Seattle dans le cadre de sa semaine visant à célébrer la communauté LGBT, une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. La date et le lieu étaient connus à l'avance, mais pas l'affiche. Et ce qui est sorti du tirage au sort vendredi, c'est une rencontre Iran-Égypte. L'Iran, où l'homosexualité est passible de la peine de mort, et l'Égypte, où elle est souvent punie par des lois sur la moralité. Les deux fédérations ont immédiatement exprimé leur colère. L'Iran dénonce une décision irrationnelle. Elle s'oppose à la qualification de cette rencontre comme le match des fiertés. Même demande du côté de la fédération égyptienne. Pour le moment, la FIFA n'a pas réagi. C'est une nouvelle polémique à gérer après celle du Mondial 2022 au Qatar. À l'époque, elle avait empêché à plusieurs fédérations de porter un brassard en soutien aux personnes LGBT pour ne pas froisser le pays organisateur.
La suite de l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie, cette fois-ci Lionel, avec le coup d'envoi des finales du championnat territorial de basket. Et ce soir, ce sont les hommes qui ouvrent le bal.
Le premier acte entre l'équipe de Rivière-Salée et celle de Dimbéa à la salle Omnisport de Lons-Vatal. Les joueurs de Dimbéa sont tenants du titre, ils font figure de favoris. Ils reviennent de la Coupe du Pacifique où ils ont battu les Tahitiens d'Excelsior pour gagner leur billet pour la Coupe de France. Le premier match de la finale territoriale est prévu à 20h. Le deuxième match aura lieu samedi. Ce sera aussi l'occasion de voir le premier duel entre les filles du Mondor Basket Club et celles de Rivière-Salée. Le match 2 des féminines et le match d'appui des messieurs en cas d'égalité est programmé le lundi 15 décembre. Le match d'appui des dames est planifié le 17 décembre. C'est mercredi prochain.
L'info, c'est aussi sur rrb.nc.